Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bonjour à Radio Free Gaza. Le 15e épisode, entre-temps. Bonjour Arthur, bonjour Stéphanie. Voilà. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de direct avec une participante de la délégation belge ou luxembourgeoise. Enfin, ou sauf si ça change en cours de route, on ne sait jamais.
Poil n'est pas coutume.
Exactement. Donc, en tout cas, nous avons un entretien avec Gian Sveir aujourd'hui.
Oui, qui va nous parler de Marwan Barghouti. Qui est un nom qui est très souvent prononcé ou écrit lors des différentes crises ou moments compliqués du conflit israélo-palestinien et qui maintenant est un génocide. Et donc régulièrement ce nom revient dans la presse avec un peu d'explications mais pas trop. Et donc nous on a voulu essayer d'en savoir plus sur qui était ce monsieur et ce qu'il représente exactement politiquement. C'est très intéressant cet entretien.
Exactement. Bonne écoute.
C'est interdit d'être ici. Hein.
Bonjour, Gian. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, s'il vous plaît?
Alors voilà, je suis Gian Sveir, je suis professeure à l'Université libre de Bruxelles. Je suis historienne, spécialiste du monde arabe, j'ai fait ma thèse sur les réfugiés palestiniens du Liban. Je suis moi-même palestinienne et libanaise, mais également française.
D'accord, parfait. Alors la raison pour laquelle nous vous avons contacté, c'est pour nous parler un peu de Marwan Barghouti, qui est un nom qui revient assez régulièrement lors des différentes crises du conflit israélo-palestinien et à différents moments compliqués politiquement, mais qu'on connaît finalement relativement assez peu. Est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter ?
Oui, tout à fait. Alors, Marwan Barghouti, c'est un homme politique palestinien qui est emprisonné depuis 2004 dans les prisons israéliennes. Il est emprisonné à vie pour avoir en fait été un homme politique qui a voulu l'unification. C'est un symbole qui est un symbole politique parce que c'est celui qui va œuvrer pour l'unification entre les Palestiniens de l'extérieur, les Palestiniens de l'intérieur, la Cisjordanie et Gaza. Il représentera une menace à plusieurs échelles. D'abord une menace politique parce qu'il est rassembleur et que sa figure et que son discours rassemble, parce qu'il est un peu à contre-courant également du comité central de l'OLP concernant l'unification avec le mouvement politique du Hamas. Parce que c'est une figure qui rassemble les Palestiniens de manière unanime. Il est souvent comparé à la figure de Nelson Mandela à cause de son incarcération, mais également à cause de son engagement et de sa rectitude par rapport aux revendications d'une Palestine, d'un État palestinien fort et uni.
D'accord. Oui, j'allais effectivement le Nelson Mandela. Ça c'est assez connu. Ça, on lit assez ça régulièrement dans la presse le concernant. Mais il dit aussi, je pense, oui, il a dit en tout cas qu'il ne se considérait pas comme un pacifiste.
Alors non, la lutte qui a commencé, c'était celui qui a été l'architecte un peu de la deuxième intifada. La deuxième intifada, la première intifada, c'est 1987, mm-hmm. C'est la désobéissance civile, c'est le soulèvement du peuple palestinien de manière pacifique, et c'est également un peu le retournement du regard de l'opinion publique mondiale par rapport au mythe de David contre Goliath, puisque dorénavant c'est l'enfant palestinien qui tient une fronde avec une pierre contre un tank israélien qui est représenté dans ce conflit, et ce n'est plus l'histoire qui a été véhiculée après 1967 et la débâcle des troupes arabes après la guerre de six jours, de la légende du David contre Goliath, du petit État hébreu contre la masse de voisins arabes. Là, pour le coup, en 2000, donc, Marwan Barghouti va être celui qui va dire comment il faut organiser donc, le soulèvement de la deuxième intifada. Et il a réussi pas mal à enrayer les opérations israéliennes qui se sont déroulées juste après donc, le déclenchement par Ariel Sharon de la seconde intifada, quand Ariel Sharon va marcher sur l'esplanade d'Al-Aqsa, oui, et va enflammer les territoires palestiniens parce que il va aller à l'encontre de tous les accords qui avaient été signés et qui va encourager également les opérations de construction de colonies illégales. Et donc c'était un homme qui et représentait une véritable menace puisqu'il rassemblait et qu'il avait une stratégie à long terme pour l'unification et la solidarité des factions, des différentes factions palestiniennes. Il allait parfois à l'encontre du comité central et des décisions du comité central de l'Organisation de libération palestinienne, mais il était quand même élu au comité central en tant que successeur de Fatah el-Husseini qui était décédé en 2000.
Donc c'est une figure populaire.
Ah, absolument.
D'accord.
C'est une figure populaire et c'est une figure qui va réorganiser le mouvement Fatah en Cisjordanie, qui avait été durement touché par l'occupation et qui avait connu également une période de dispersion et de division. Il va réussir à réorganiser le mouvement en Palestine en un mois et il va lancer une série de conférences en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est lui également qui va être celui qui va organiser les élections municipales qui vont se tenir également à Gaza et qui vont faire en sorte que en 2006, ces élections municipales, même après son incarcération, vont être gagnées par le mouvement Hamas à Gaza.
D'accord. Mais donc, une question intéressante, c'est aussi quelle est sa position aujourd'hui par rapport à l'autorité palestinienne ?
Est-ce que vous pouvez répéter ?
Ah, pardon. Oui, bien sûr. Quelle est sa position aujourd'hui par rapport à l'autorité palestinienne d'aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, sa position, elle est très affaiblie, notamment après les années d'incarcération. Oui. Mais il a toujours été critique par rapport à l'autorité palestinienne et par rapport aux collaborations que l'autorité palestinienne a dû faire pour se maintenir au pouvoir et maintenir un peu l'autorité de Mahmoud Abbas. Il a été très critique également par rapport à la corruption dont l'autorité palestinienne a été accusée à maintes reprises. Donc, il dérange à la fois certaines personnes politique palestinienne, et il dérange surtout, et encore aujourd'hui, très fortement les autorités israéliennes.
Oui.
Mais il a une popularité très grande au sein de la population civile, qu'elle soit en Cisjordanie ou à Gaza.
Et une question qu'il faut quand même poser quand on parle de la Palestine, c'est évidemment les influences extérieures qui sont quand même très fortes. Et donc, comment est-il perçu par les Européens et par les Américains ?
Alors, il est perçu, c'est quelqu'un qui va commencer à entamer le dialogue avec l'Europe et surtout avec la France. Il va être défendu par des parlementaires européens, puisque lui-même est un homme politique, il va être élu. Et donc, on va essayer, il a positions de certaines factions, comme par exemple le Parti socialiste ou le Parti communiste, qui va le soutenir et qui va à plusieurs reprises présenter des requêtes aux autorités israéliennes pour le libérer, qui demande sa libération. Par rapport aux États-Unis, c'était également, pour, en tout cas pour l'administration Biden, c'était quelqu'un qui était envisageable en tant que représentant de l'autorité palestinienne, mais comme les Américains sont très liés à Israël et que Israël ne veut absolument pas libérer Marwan Barghouti parce qu'il représente une menace réelle et une force très grande politique d'unification du peuple palestinien. Donc les Américains sont beaucoup moins favorables pour sa libération.
Oui, une question en lisant un peu rapidement son parcours, en réfléchissant aux questions que j'allais vous poser, il y a quand même une question qui vient très vite à l'esprit, c'est comment cet homme est-il toujours vivant ? Ce que je veux dire, comprenez ce que je veux dire.
Oui, oui. Cet homme a un soutien qui est très grand, qui est sa femme, et qui est un peu le porte-parole de sa cause. C'est également quelqu'un qui n'a absolument pas baissé les bras, qui a continué les études, qui a obtenu un doctorat en sciences politiques de l'université de Birzeit, quand il était incarcéré. Et son doctorat, par exemple, il a réussi à le sortir de manière secrète et à présenter sa thèse en 2002 tout à fait secrètement. Donc c'est quelqu'un qui a une très grande volonté, qui a une très grande vision et claire pour la Palestine, mais la dernière vidéo que Ben-Gvir a faite de lui en août 2025 là, montre quelqu'un qui est quand même assez affaibli et assez amaigri et qui secouait la tête par rapport à tout ce que Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, lui disait en le menaçant, en se moquant de lui, en lui montrant les photos de ce qu'ils ont fait à Gaza et en lui disant que de toute façon, c'est ce qui attend tout le peuple palestinien. Et donc, c'est quelqu'un qui est atteint très, très profondément dans sa dignité en tant qu'homme, mais également dans sa conscience politique. Maintenant, on sait qu'il a été torturé, on sait qu'il a fait une grève de la faim, plusieurs même, et que son parcours est un parcours de martyr vivant. Ouais. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus une icône et une icône unificatrice pour une Palestine libre et un État fort.
Oui, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même malgré le fait qu'il est en prison depuis plus de 20 ans, on discute encore avec lui pour savoir s'il sera éventuellement sur la liste des candidats aux prochaines élections. Est-ce que ça reste un espoir, même dans les conditions que vous venez de citer, de ce qu'a été sa vie jusqu'ici, et de la difficulté de la chose ? Est-ce que
oui,
il reste...
absolument, absolument. Ça reste un potentiel leader, ça reste le leader unique, je pense unanimement, que ce soit en Europe ou même si l'administration de Trump va partir et qu'on revient à un régime démocratique, enfin à ce que les démocrates reviennent et prennent le pouvoir aux États-Unis, cette solution est envisageable. N'oublions pas que quand Mandela était incarcéré et qu'il a été considéré comme terroriste au moment de son incarcération, une fois qu'il a été libéré, il a pu, tant bien que mal, reconstruire l'Afrique du Sud et décoloniser l'Afrique du Sud du pouvoir blanc.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à ajouter dont nous n'avons pas parlé ? Nous n'avons pas parlé de tout, certainement, mais est-ce que quelque chose d'important ?
Je voudrais rajouter une chose pour dire que depuis donc, le déclenchement de la guerre, il y a eu plus de 18 000 prisonniers. Et donc, il est le prisonnier symbolique, celui qu'on voit, mais que dans les prisons israéliennes, selon le rapport d'une organisation palestinienne sur les prisons, il y a à peu près aujourd'hui plus de 18 000 prisonniers, dont une partie d'enfants, de mineurs et de femmes. Ouais. Et donc, on a une position israélienne qui consiste à transférer, tuer, mettre en prison et la plus grande partie des prisonniers qui sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes, ce sont pas des prisonniers de droit commun, mais ce sont des civils, beaucoup à cause de leurs opinions politiques et de leur positionnement, des manifestations qu'ils ont pu avoir. Donc, il y a eu des rafles, et faut lire la toile carcérale de Stéphanie Latt qui explique comment fonctionnent les prisons pour pouvoir comprendre également le pouvoir coercitif des autorités israéliennes sur le corps, sur l'intimité, sur la famille. Parce qu'en mettant en prison une personne, on emprisonne également sa famille et le village et toute la communauté.
Oui, absolument. Merci, merci beaucoup et merci d'avoir rappelé qu'effectivement, il y a des mineurs et beaucoup de mineurs en prison, dans les prisons israéliennes, mineurs palestiniens. Merci. Merci beaucoup, Jeanne, merci pour cet entretien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était l'entretien avec Jeanne...
Sfer,
oui. c'est pas facile à prononcer. Voilà, bah, entre-temps, on n'a pas trouvé notre participante du jour. Enfin, en tout cas, elles n'ont plus répondu. Bon. C'est pas grave, on comprend. Probablement, ils sont en plein départ. En tout cas, c'est ce qu'on espère, du fond de notre cœur.
Oui, je pense que je n'ai jamais espéré un tel départ. Oui. Alors, on peut juste faire un petit point. Donc, il y a 16 bateaux qui sont partis de l'Italie hier en direction de la flottille. Donc, l'idée, c'est qu'ils se rejoignent. Les bateaux qui sont stationnés en Tunisie depuis déjà un petit moment attendent, eux, de pouvoir partir avec divers retards, suite notamment à plusieurs problèmes liés en ce moment à la nécessité de trouver du fuel. Et qui apparaît comme étant extrêmement difficile. Et donc voilà, donc ça c'est une réalité. Il y a aussi des bateaux qui doivent partir de Grèce aujourd'hui, mais donc l'idée c'est bien qu'à un moment donné ils se rejoignent pour avancer en bloc jusque Gaza. On peut aussi peut-être rappeler qu'il y a un tracker public qui se trouve sur le site de la globalsumudflotilla.org, bien un onglet tracker sur lequel il suffit de cliquer. Voilà, et alors peut-être aussi rappeler qu'il y a un lien Linktree qui reprend tous les liens vers... les mailings, les campagnes de mailing, par exemple, que l'on peut proposer aux personnes qui ont envie de soutenir la FLOTI pour demander au gouvernement, à notre gouvernement en l'occurrence, de les soutenir, de rejoindre le groupe Signal s'ils veulent des infos, des dernières infos et des infos sur les actions. C'est un groupe public. Aussi, des liens vers l'international, vers aussi... notre radio Radio Free Gaza, enfin voilà un peu tout, et donc c'est un link tree et ça s'appelle GMT Gaza Belgium, donc c'est link tree GMT Gaza Belgium.
Ok, alors on arrive à la fin de notre émission. Demain nous aurons un entretien avec Aude qui fait partie des soutiens à cette activiste qui fassent la persécution à cause de leur action contre une usine de Elbit à Oudenaarde, ici en Belgique. Et donc, ils ont fait une action, une centaine d'activistes en mars 2024 qui ont bloqué l'usine pendant une journée ou presque. Et aujourd'hui, on leur demande, par exemple, 100 000 euros en frais de comment on dit ça de nouveau en français ?
En dommages matériels, dommages moraux.
Émotionnels.
Et émotionnels. Elle nous raconte ça.
Voilà. Donc, ça, c'est pour demain, pour l'entretien. Demain, donc, à partir de 17h.
À demain.
À demain.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Belux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la FLOTI internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.